rediffusion. Accent d'Europe, Juliette Rangeval.
Bonjour, au Royaume-Uni, des multinationales comme Unilever utilisent l'intelligence artificielle pour sélectionner les candidats lors des entretiens d'embauche. Souriez, vous êtes embauché. Ça pourrait être le slogan de ces méthodes de recrutement avec des algorithmes qui font polémique. En Autriche aussi, le recours aux nouvelles technologies fait débat. L'Agence pour l'emploi s'apprête à utiliser un nouvel algorithme pour classer les chômeurs selon leurs chances de retrouver du travail. De là découlerait leur droit à accéder ou pas à certaines formations. Et certains s'inquiètent, le système risquerait de renforcer les discriminations. Les explications viennent de notre correspondante Céline Béal.
Demander à une machine de scruter les données personnelles d'un demandeur d'emploi pour calculer ses chances de trouver un nouveau poste. Est-ce que c'est une bonne idée ? C'est en tout cas le système que l'Autriche s'apprête à mettre en place. Le Service pour l'emploi a décidé mi-septembre de généraliser dès 2020 l'utilisation d'un algorithme, un système qui risque de discriminer certains chômeurs selon ses détracteurs. La machine répartit les demandeurs d'emploi en trois catégories. Fort potentiel, opposé à ceux qui sont au contraire jugés difficiles à placer. Et entre les deux, un groupe moyen. Le calcul dépend de plusieurs paramètres, comme la carrière et la formation. Mais il prend également en compte l'âge, le genre, la nationalité. Comme statistiquement, les femmes, les personnes plus âgées, les étrangers trouvent plus difficilement du travail en Autriche, l'appartenance à l'un de ces groupes augmente les risques de se retrouver moins bien classés par l'algorithme. En fait, la machine anticipe les discriminations existantes dans le monde du travail. Et c'est cette classification qui va ensuite déterminer le soutien offert à chacun. En particulier, les chômeurs les moins bien classés seront moins suivis et n'auront pas accès à certaines formations très intensives, celles qui coûtent également le plus cher à la collectivité. Avec l'idée qu'elles ont de toute façon peu de chances d'aboutir sur une embauche pour ce groupe à forte difficulté. Alors, est-ce réellement juste que les plus de 50 ans, les étrangers, les femmes, en particulier si elles ont des enfants à charge, risquent davantage de se retrouver dans cette catégorie de demandeurs d'emploi jugés quasiment irrécupérables ? Le service de l'emploi soutient que l'algorithme fonctionne quand même de manière plus différenciée que la presse le rapporte et que tous les demandeurs d'emploi continueront bien à bénéficier d'un suivi sous une forme ou une autre. Et puis, le logiciel ne prendra pas la décision finale qui reviendra toujours à un conseiller en chair et en os. Une polémique qui permet de mettre en lumière les discriminations à l'embauche. Certes, le taux de chômage est bas en Autriche par rapport aux autres pays européens, mais ici non plus, tous n'ont pas les mêmes chances face aux recruteurs.
Eh bien, n'est-ce pas ? C'est très simple. Vous commencez à 8h jusqu'à midi. Vous avez 1 heure pour le repas. Vous reprenez à 1h jusqu'à 6h.
L'amour libre, vous connaissez ? Aux Pays-Bas, il y a l'embauche libre. Pour se faire embaucher chez Mamalouz, il suffit de se présenter à l'accueil et de s'inscrire sur une liste d'attente. Ça permet de lutter contre les discriminations. Plus besoin de dire son âge ou de donner son adresse ou ses origines. C'est aussi un bon moyen de recruter dans un pays qui connaît le plein emploi et où de nombreux postes restent non pourvus. C'est en tout cas les arguments qu'avance cette entreprise de vente en ligne de produits pour bébés. Antoine Moutot, notre correspondant aux Pays-Bas, s'est rendu à Tilburg, au siège de Mamalouz.
Au premier abord, le siège de la société Mamalouz ne paye pas vraiment de mine, mais une fois à l'intérieur, ce simple entrepôt prend des allures d'atelier du Père Noël. Ici à Rorle, dans la banlieue de Tilbourg, près de la frontière belge, des dizaines de personnes s'activent en continu pour emballer jouets, poussettes et autres articles pour enfants. Depuis quelques mois, ici aux Pays-Bas, la chef de Mamalouz, Loes de Volder, fait beaucoup parler d'elle. Pour son entreprise de vente en ligne de produits pour bébés, elle a choisi une méthode d'embauche pour le moins surprenante.
Les gens écrivent leur nom, là je mets le mien pour l'exemple, numéro de téléphone et adresse courriel. Les gens indiquent s'ils peuvent soulever 10 kilos, rester debout pendant 4 heures, et c'est bon, ils sont embauchés.
Ici, aucune lettre de motivation, aucun CV, pas d'entretien non plus. Pour être embauché, il suffit d'inscrire son nom. Les premiers arrivés sont les premiers servis. L'entreprise veut recruter en priorité les personnes marginalisées sur le marché du travail. Depuis mars, 8 personnes y ont ainsi trouvé un emploi avec une période d'essai d'un mois et des premiers contrats de 7 mois.
Tous ceux qui viennent de cette façon sont très motivés pour travailler. Beaucoup d'entre eux ne peuvent pas trouver un travail autrement. Donc, lorsque tu leur donnes cette chance, ils se jetteraient dans le feu pour toi. Tout ce que tu demandes, ils le font, comme travailler un jour de plus ou remplacer quelqu'un.
Cette manière peu orthodoxe de sélectionner ses employés vient en fait des États-Unis, d'un grand fabricant de brownies, Griston Bakery, qui fournit notamment en biscuits des compagnies très connues comme Delta Airlines ou encore le glacier Ben & Jerry's. Le slogan de Griston Bakery, nous n'embauchons pas des personnes pour cuire des brownies, nous faisons des brownies pour pouvoir embaucher des personnes. Griston Bakery cherche désormais à s'implanter en Europe en débutant par les Pays-Bas, mais avant cela, il veut d'abord tester sa culture de l'emploi sur le sol néerlandais. Mamalous, qui compte quelques 130 employés, a accepté de lui servir d'entreprise pilote. Mais il y a quelques différences notables entre les deux. Le fabricant de biscuits souhaitait notamment donner une chance aux anciens détenus. Ici, ce sont plutôt des quinquagénaires comme Pierre qui trouvent un emploi.
Je travaille ici depuis le 3 juin dernier. J'ai eu l'offre d'emploi grâce à ma nièce qui l'avait vue passer. Avant ça, je n'avais jamais entendu parler d'embauche libre. C'est ma nièce qui m'en a parlé. Alors je me suis juste inscrit et 2 mois plus tard, j'avais du travail.
Il faut dire qu'après avoir enchaîné les boulots en tant qu'auto-entrepreneur et une période sans travailler, Pierre commençait vraiment à désespérer.
Mon CV était très très ancien, je ne suis plus tout jeune. Les entreprises cherchent des jeunes, alors tu n'es plus dans la course. Mais ici, ils ne regardent pas tout ça, ton âge ne les intéresse pas. Si tu peux travailler et soulever 10 kilos, tu peux venir.
Autre avantage de taille, selon cette entreprise, l'embauche libre permettrait aussi de lutter contre une forte pénurie de main-d'œuvre qui freine actuellement la croissance néerlandaise. Aux Pays-Bas, avec un taux de chômage de seulement 3,5%, certains secteurs ont en effet beaucoup de mal à trouver des employés. Selon l'Institut néerlandais des statistiques, au deuxième trimestre de 2019, les Pays-Bas comptaient 93 offres d'embauche pour 100 demandeurs d'emploi. Mais l'initiative de Mamalous apporte aussi avec elle son lot de questionnements. Certains sont très réservés, à l'image de Kitty Young du FNV, l'un des principaux syndicats du pays.
Oui, sur le principe, c'est une bonne initiative. Ça évite la discrimination sur le marché du travail. Mais aux Pays-Bas, la situation est telle que nous avons en ce moment environ 40% de personnes actives avec des emplois flexibles, un contrat à durée déterminée ou un contrat d'intérimaire ou un contrat zéro heure. Si jamais il s'avérait que cette initiative ne faisait pas partie des emplois durables, vu le contexte néerlandais, je trouverais ça inquiétant.
L'entreprise de Tilbourg dit comprendre ses inquiétudes, mais promet que chez elle, pas de contrat précaire. Au contraire, les salariés pourraient facilement obtenir un temps plein et monter progressivement dans la hiérarchie.
Où sont les femmes ? En Italie, sur le marché du travail, ce sont les femmes qui souffrent le plus de discrimination, en particulier lorsqu'elles ont des enfants. De fait, près d'une femme sur deux ne travaille pas. Pour sensibiliser à la question, une association de femmes a réalisé un court-métrage pour essayer de remuer les consciences. Les détails avec Cécile Debarge.
Le titre est éloquent, Mamme fuori mercato, littéralement les mamans hors du marché du travail. Dans un court-métrage de 15 minutes, la réalisatrice Peggy Gambino retrace les difficultés d'une femme qui doit gérer la recherche d'un travail et son enfant. Sur le plateau de Téléromania, elle raconte comment cette idée lui est venue.
En naviguant sur Facebook, je suis tombée sur le poste d'une jeune femme, une mère célibataire, complètement seule, sans le soutien familial qu'on est parfois habitué à recevoir avec un nouveau-né sur les bras, sans un centime, toute seule. Elle était en train de chercher du travail et elle était sans cesse moquée et son CV était systématiquement jeté à la poubelle.
En Italie, selon les chiffres de l'OCDE, 2,3 millions de femmes ne travaillent pas pour raisons familiales. Pourtant, 40% d'entre elles ont un diplôme universitaire ou le baccalauréat.
Cette histoire m'a beaucoup touchée. Je ne suis pas mère, mais tout de suite, ça a suscité des questions. Je me suis demandé, mais qu'est-ce que je ferais moi à sa place ?
Peggy Gambino fait partie de l'association culturelle s'appelle Yanas, destinée à la promotion d'activités culturelles. Elle est aussi l'une des 3% de femmes réalisatrices.
J'ai pensé que j'aurais pu réaliser un film pour sensibiliser à cette question parce qu'il faut en parler. Et il faut surtout que nous, les femmes, on raisonne en termes de sororité, avec la possibilité de se soutenir.
Car jusqu'à présent, les institutions italiennes peinent à trouver la bonne formule pour faciliter l'accès des femmes au marché du travail. La loi 903-77 a mis en place toute une série de normes pour favoriser la parité, y compris l'institution de quotas pour les femmes. La métropole de Venise, elle, a été l'une des premières villes à recruter des conseillers en parité. En 2018, 30 demandes d'aide ont été formulées, 23 venaient de femmes, dont 5 cas de harcèlement et 4 d'humiliation au travail. La maternité reste l'une des principales causes de discrimination.
Avec le Corps européen de solidarité, l'Union européenne envoie des milliers de jeunes bénévoles partout en Europe. Cette initiative permet à des jeunes entre 18 et 30 ans de se porter volontaires pour des projets dans l'Union, de l'accès à l'éducation en passant par l'accueil de réfugiés ou la protection de l'environnement. Toutes les activités proposées ont une dimension solidaire et l'UE prend en charge les frais de déplacement, le logement, la nourriture des bénévoles pendant leur séjour de 2 à 12 mois. Une aide financière qui permet aux volontaires de se consacrer entièrement à leur activité. Accent d'Europe vous emmène en Finlande avec nos confrères de la RTBF. Alice de Baptiste et Hicham Boukrouf sont partis à la rencontre de volontaires qui ont, eux, choisi de participer à la vie d'un éco-village dans les forêts finlandaises.
En mitouflé dans un pull, bonnet sur la tête, Nils s'active de bon matin. Aujourd'hui, il s'attaque à la construction d'un barbecue en argile. Ce Belge, originaire de Sydney, est arrivé dans l'éco-village un peu par hasard. C'est en traînant sur Internet qu'il a découvert le Corps européen de solidarité. Il a vu dans ce programme une opportunité de changer de carrière.
Je travaillais beaucoup dans la restauration, j'en avais un peu marre, donc je voulais faire un truc utile, on va dire, où je me sentais utile. Maintenant, le volontariat, souvent, faut payer. Et donc, j'ai trouvé ce truc-là qui ne demande pas d'argent.
L'Union européenne prend en charge les tickets d'avion, le logement et la nourriture. Une aide financière qui permet aux volontaires de se concentrer sur leur projet. En 6 mois, Nils a déjà beaucoup appris.
On a fait beaucoup de travail extérieur, donc moi, je suis pas du tout un manuel à la base. Donc, ça m'a obligé à devenir manuel. Travailler avec du bois, tout ce qui est palette de récup, et donc voilà, déjà ça. Après, de la cuisine collective, parce qu'une semaine sur 6, on s'occupe de la cuisine, donc de cuisiner pour 25-30 personnes.
Et si ce matin, Nils n'est pas derrière les fourneaux, d'autres s'activent dans la cuisine communautaire. Satu Körki, la gérante du village, sa mère Tuija et 4 autres volontaires coupent en fines lamelles de grands choux blancs.
Nous préparons de la choucroute, c'est de la nourriture pour l'hiver.
Des moments conviviaux comme celui-ci ponctuent la vie des habitants de l'éco-village. Un partage culturel qu'apprécie Anne.
Ce qui est important, c'est de pouvoir partager les connaissances aussi. Et on vient tous d'un endroit différent. Et ça nous permet de voir, par exemple, ici la recette de la choucroute et de pouvoir varier. J'ai appris il n'y a pas longtemps qu'on pouvait mettre des carottes et des pommes dedans, chose que moi, par exemple, je n'avais jamais fait.
Mais pour cette Belge originaire de Dinan, ce programme, c'était surtout une manière de faire le point.
Moi, j'étais dans une rupture de beaucoup de choses dans ma vie et donc j'avais besoin d'un petit break. Et voilà, c'est pour ça que je suis partie ici.
Au milieu du calme des forêts, d'autres ont même trouvé une nouvelle famille. Éléonore vient d'Italie. Elle a noué des liens forts avec Tuija, la grand-mère finlandaise. L'une parle italien, l'autre finnois, mais ça ne les empêche pas d'être complices.
Les premiers jours, on était un peu timides, donc on a commencé à interagir avec des gestes et avec le regard. Puis nous avons commencé à parler. On utilisait beaucoup Google Translate pour parler des choses importantes. Et j'ai senti que je pouvais me confier au sujet de ma vie privée. Elle m'a donné des conseils et c'est donc comme ça qu'on est devenus proches.
Closer.
Remember.
Et pour venir ici, pas besoin de parler plusieurs langues ou de collectionner des diplômes. Ce qui compte pour Satou, c'est la motivation.
Le plus important,
c'est qu'ils comprennent à quoi ressemble cet endroit avant de venir. Ce que ça signifie de vivre dans le noir, à la campagne, les toilettes sèches, pas de douche et de vivre en communauté.
C'est avec ce mélange de vie en communauté et de travail au grand air que Satou espère créer une solidarité européenne.
L'objectif principal, c'est que les gens comprennent que nous faisons partie de la nature et que la nature nous appartient à tous. Nous n'avons qu'une seule planète et nous devons nous en occuper tous ensemble.
Des volontaires solidaires comme Nils, Anne et Léonore, la Commission européenne envisage d'en envoyer 100 000 à travers toute l'Europe d'ici la fin de l'année 2020.
Le socialiste Antonio Costa a donc été reconduit au poste de Premier ministre du Portugal. Après sa victoire aux élections législatives du 6 octobre, lors de son arrivée au pouvoir en 2015, il avait signé des accords écrits avec les partis de gauche dont il avait besoin pour réunir une majorité. Et cette fois, il s'apprête à gouverner seul en négociant au cas par cas avec ses alliés. Portrait d'Antonio Costa, un fin tacticien de la politique, signé Béatrice Leveillé.
Sa victoire n'a surpris personne. Il incarne le succès de l'alliance de gauche au Portugal. Antonio Costa a réussi à sortir son pays de la crise en conservant le soutien des électeurs. Antonio Costa Pinto, professeur à l'Institut des sciences sociales de l'Université de Lisbonne.
Il a eu l'intelligence politique en 2015 de former une alliance politique à gauche pour la première fois dans l'histoire de la démocratie portugaise avec le Parti communiste et avec le Bloc de gauche. Et au même temps qu'il a eu une politique économique très européiste, très social-démocrate, une alternative à gauche de redistribution, d'augmentation des pensions, du salaire minimum, au même temps qu'il a eu une politique très modérée vis-à-vis de Bruxelles, sur le point de vue de la politique budgétaire. Il est arrivé à un bon compromis entre la social-démocratie et évidemment l'alliance de gauche en 2015.
Avant de devenir Premier ministre, Antonio Costa était maire de la capitale et c'est là qu'il a rodé sa méthode avec la création en 2012 de Startup Lisboa, une pépinière d'entreprises qui, en plein cœur de la crise, a été un vrai succès entrepreneurial. Rui Coelho, directeur de l'agence de promotion et d'investissement à Lisbonne, a travaillé à ses côtés à l'époque.
On a créé un projet très 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 important pour nous et pour la ville de Lisbonne, la pépinière d'entreprise qui s'appelle Startup Lisboa. Et c'était une explosion de start-up et d'entrepreneuriat. On a pensé la localisation de cette pépinière dans le centre de la ville, le centre historique de la ville, qui était tellement délabré pour le dynamiser. Et ça, c'était aussi très important pour le succès de la pépinière d'entreprise, la localisation de ce projet. Une fois que le maire de Lisbonne a allé pour le gouvernement, c'était encore plus fort, parce que son expérience à Lisbonne était très forte avec les startups. Il me disait que pendant des années, il a tous les jours des mauvaises nouvelles, mais seulement les bonnes nouvelles sont des startups.
Des parents intellectuels de gauche, un père d'origine indienne, emprisonné plusieurs fois sous la dictature, Antonio Costa a une histoire particulière. Antonio Costa Pinto.
C'est un homme qui a une énorme ouverture d'esprit. Sur le point de vue de son background culturel, familial, il connaît bien la culture politique de la gauche au Portugal. Costa est le fils d'un écrivain communiste qui est décédé récemment et d'une journaliste socialiste. Il a fait toute sa carrière politique dans le Parti socialiste, mais en tant que maire de Lisbonne, il a essayé avec succès, en fait, la première alliance avec les partis à sa gauche. Et en 2015, il a été probablement le seul dirigeant socialiste avec l'intelligence politique de répéter cette expérience à niveau national. Et ça, évidemment, s'est révélé un succès.
La question la plus importante maintenant est la stabilité du gouvernement, a déclaré Antonio Costa, qui veut poursuivre le développement de son pays en se tournant résolument vers l'international.
Accent d'Europe à la réalisation, Françoise Grelot. Vous retrouvez le podcast de l'émission sur le site RFI.fr et sur les réseaux sociaux. À bientôt.